18h, l'heure du journal d'Aurélie Kiffer. Bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Le ministre de l'Agriculture à la rencontre des éleveurs en difficulté. Stéphane Le Foll s'est rendu à Caen juste avant la remise d'un rapport sur les prix agricoles. Un plan d'urgence pour les éleveurs sera annoncé demain. L'Autriche, qui peine à répondre aux demandes d'asile, confie 500 de ses migrants à la Slovaquie voisine. Un accord inédit en Europe. Nous y reviendrons avec Blaise Gauquelin à Vienne. À défaut de mariage, les couples gays ont droit à l'union civile. La Cour européenne des droits de l'homme donne raison à 3 couples italiens. Précision de Florence Turme. Fin de scrutin au Burundi. Une élection présidentielle très contesté qui devrait offrir un troisième mandat à l'actuel chef de l'État. Nous irons à Bujumbura. Il proposait de les recevoir jeudi au ministère. Stéphane Le Foll a finalement cédé sous la pression des éleveurs normands. Le ministre de l'Agriculture s'est déplacé à Caen pour aller à leur rencontre. Depuis dimanche, le mouvement des éleveurs et producteurs de lait a pris de l'ampleur, perturbant fortement la circulation aux abords de Caen, du Mont-Saint-Michel, puis s'étendant au pont de Normandie et de Tancarville. À la mi-journée, une réunion ministérielle sur les filières d'élevage s'est tenue à Matignon. Après quoi, Stéphane Le Foll s'est donc rendu en Normandie. On retrouve Noémie Bonin à Caen.
La pression était trop forte. Depuis dimanche, les barrages bloquaient l'accès à plusieurs routes de l'Ouest. Stéphane Le Foll, du coup, est arrivé vers 16h30 tout à l'heure. Il a voulu se montrer un homme de terrain et c'est exactement ce que les agriculteurs voulaient de lui. Il a défendu l'action du gouvernement, le plan d'urgence notamment, qui sera présenté en Conseil des ministres demain. Stéphane Le Foll attend aussi les conclusions du médiateur. Il doit rendre son rapport ce soir. Alors, 2 délégations sont reçues ici à la préfecture de Caen par le ministre. Des syndicats d'agriculteurs au niveau départemental, du Calvados et régional. Et ce qui découlera de cette réunion doit décider les agriculteurs à lever ou non les blocages pour le moment toujours maintenus.
Stéphane Le Foll recevra ce soir le rapport du médiateur sur les prix agricoles et un plan d'urgence sera annoncé demain en Conseil des ministres. Mais quelles que soient les mesures annoncées, elles ne suffiront pas à résoudre la crise actuelle, estime Vincent Châtelier, économiste spécialiste des filières agricoles et de la PAC.
Dans le domaine du lait, la crise qu'on vit actuellement, c'est une crise internationale, avec une augmentation de la production l'année dernière qui a été 2,5% au niveau mondial quand la consommation a augmenté de 2%. Et la production est encore en augmentation aujourd'hui aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande. Et ça, le gouvernement français n'y peut pas grand-chose, si ce n'est d'encourager les entreprises à avoir des politiques de contrôle de l'offre au travers des contrats qui soient raisonnables par les temps qui courent. Il y a d'autres façons d'agir. C'est de faire pression sur la grande distribution pour que les produits qui sont vendus sur le marché interne engagent un peu plus de création de valeur au bénéfice des producteurs. Donc c'est tout le bras de fer qui est engagé. Et puis après, effectivement, il peut y avoir des plans qui permettent aux agriculteurs de mieux vivre dans une période où les prix sont au bas, et notamment tout ce qui concerne la fiscalité ou les questions relatives à l'endettement, donc les reports d'annuités, etc. Mais la France seule, dans un marché internationalisé, ne peut pas tout changer. Je ne pense pas qu'on va être capable ce soir de dire finalement, la crise est liée au fait que l'appareil de transformation ou la distribution a mis la main basse sur la valeur générée en agriculture. La question, c'est plutôt comment remettre la France dans une dynamique positive et compétitive sur ses filières animales pour les 10 ans à venir. Et bon, gérer la crise sur les 6 mois à venir, c'est une affaire importante, mais prévoir la manière dont on peut rebondir dans l'univers concurrentiel européen me paraît des choses sérieuses et qui ne dépendent pas que d'une décision publique prise un 21 juillet au soir. C'est des choses qu'on doit construire dans la durée. La France a accumulé un certain nombre de retards en dépit de tous les atouts qu'on a, quoi, sur lesquels, moi, je crois, on peut rebondir.
L'économiste Vincent Châtelier répondait à Anne Lorchouin. Le défenseur des droits recommande l'interdiction du flashball lors des manifestations. Et au vu de la gravité des lésions qu'il peut causer, Jacques Toubon demande un moratoire général sur l'usage du flashball, quel qu'en soit le contexte. La semaine dernière encore, un adolescent a été blessé par la police. Y aura-t-il un plan de départ volontaire à Radio France? À l'occasion d'un comité central d'entreprise qui se tient depuis ce matin, le PDG Mathieu Gallet a expliqué au syndicat que c'était le seul moyen de sortir l'entreprise de sa situation de déficit et de revenir à l'équilibre en 2017, date imposée par les ministères de tutelle. Il prévoit donc un plan de départ volontaire concernant 350 postes sur un effectif d'environ 4400 salariés. Mais pour les syndicats de Radio France, un plan de départ n'est pas la seule solution pour faire des économies.
Et il se base sur un rapport du cabinet d'experts Tandem, mandaté par les syndicats pour analyser la situation de l'entreprise. Et selon ce rapport, il existe bien des scénarios possibles qui n'entraîneraient pas le départ de 350 salariés. Mais il faudrait pour cela que l'État accepte de repousser le retour à l'équilibre budgétaire au-delà de 2017. Jean-Marc Lescot est secrétaire du CE et élu CGT au CCE de Radio France.
Pour notre cabinet d'expertise du CCE, l'hypothèse peut être repoussée à 2018 et dans ce cas-là, on n'est pas obligé de faire un plan de départ volontaire. Il y a notamment une hypothèse qui disait qu'en fait, si c'était pas un plan de départ volontaire, ça pouvait être des salariés âgés qui pouvaient partir ou un mix des deux, de plan de départ volontaire et de départ normaux.
Lors de la présentation de ce scénario, le PDG de Radio France n'a pas répondu sur le fond donc du scénario, mais aurait seulement rappelé les marges de manœuvre qui sont les siennes, ce que regrette Jean-Marc Lescot de la CGT.
Mathieu Gallet a répété ce qu'il a dit dans son article du Monde, c'est-à-dire qu'il y avait un plan de départ volontaire de 350 personnes avec une hypothèse de retour à l'équilibre en 2017, puisque la tutelle, elle, choisit toujours d'imposer ce retour à l'équilibre en 2017 et que Mathieu Gallet dit « mais c'est pas moi qui ai choisi la date de 2017, c'est la tutelle qui l'impose ».
Reste donc à savoir maintenant, est-ce que l'État accepterait que Radio France soit en déficit pour une année de plus que prévu pour éviter le plan de départ volontaire? C'est ce que donc demandent les syndicats, mais pas seulement. En ce moment, le médiateur nommé lors de la grève à Radio France présente ses recommandations à la ministre de la Culture. Et selon l'AFP et le JDD, Dominique Jean-Chertier recommande de limiter au maximum les suppressions de postes.
Affaire à suivre, Abdelhakel Edrissi. 4 mois avant la conférence de Paris sur le climat, la capitale a accueilli aujourd'hui les représentants d'autorités morales du monde entier. Ce rendez-vous intitulé « Sommet des consciences » a été initié par Nicolas Hulot, envoyé spécial de François Hollande pour la protection de la planète. L'idée, prendre de la hauteur et réfléchir à toutes les questions que pose la crise climatique. Le reportage de Sandy Dauphin.
Des responsables religieux, des prix Nobel, des philosophes, des Amérindiens d'Amazonie, des figures morales, ils sont tous venus porter un message comme Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies.
We are close to reaching the tipping point.
Nous arrivons à un point de bascule au-delà duquel le changement climatique causé par l'homme risque de priver mon petit-fils et sa génération de leur droit à une planète saine et durable. Et ce n'est pas de la science-fiction.
À l'initiative de ce sommet des consciences, Nicolas Hulot, l'ancien animateur de télévision, veut titiller les participants de la prochaine COP21 à Paris dans 5 mois.
À Paris, vous n'avez pas le droit d'échouer, vous n'avez pas le droit d'être petit. Et c'est ce message-là que toutes les autorités morales, spirituelles et parfois religieuses doivent porter aux responsables politiques.
Et parmi ces messagers, le photographe brésilien Sebastião Salgado.
On a vu sur la côte brésilienne l'année dernière, la mer monte de nouveau et les maisons commencent à être complètement inondé de sable. C'est un grand espoir que j'ai dans un sommet comme celui-ci, où on amène beaucoup de références morales dans la planète, qu'on puisse faire une espèce de retour à la Terre.
Retour à la Terre que le photographe a lui-même entrepris. Sur sa terre natale au Brésil, il a replanté en famille plus de 2 millions d'arbres pour capter le carbone.
Les États européens ne sont pas obligés d'ouvrir le mariage aux couples homosexuels, mais les couples gays et lesbiens doivent pouvoir conclure une union civile. C'est la position de la Cour européenne des droits de l'homme qui vient de donner raison à 3 couples gays italiens. Ils avaient saisi en vain la justice italienne pour avoir le droit de se marier ou à défaut de conclure une forme de partenariat civil, Florence Thuram.
Oui, et c'est bien ce droit que leur reconnaît la Cour européenne des droits de l'homme, mais celui-là seulement. La CEDH réaffirme sa jurisprudence sur le sujet. La Convention européenne des droits de l'homme ne consacre pas le droit au mariage homosexuel, aujourd'hui légal dans 11 des 47 États membres. En revanche, et les juges ont conclu à l'unanimité sur le sujet, les couples homosexuels doivent pouvoir bénéficier de la même protection juridique que les couples mariés. Et ce n'est pas le cas à travers les contrats de cohabitation que l'Italie a mis en place en 2013. Ce statut, qui prévoit un enregistrement dans certaines mairies, reste avant tout symbolique. Il ne confère en réalité aucun droit aux couples concernés, car il ne règle aucune des questions fondamentales comme l'assistance mutuelle, les obligations alimentaire ou l'héritage. De plus, ajoutent les magistrats, la cohabitation n'est pas une condition sine qua non pour définir un couple, qu'il soit homo ou hétérosexuel. Et tout en condamnant l'État italien à verser 5000 euros de dommages moraux à chacun des 6 plaignants, la Cour lui suggère d'adopter le principe d'une union civile, comme l'ont déjà fait 24 autres pays européens. La Grèce pourrait d'ailleurs bientôt leur emboîter le pas, après avoir été elle-même condamnée pour discrimination par la CEDH. Le gouvernement grec a présenté le mois dernier un projet de loi qui prévoit d'ouvrir aux couples homosexuels le contrat d'union civile en vigueur depuis plusieurs années, mais dont il reste exclu.
Merci Florence Thuram. Alors que l'Europe peine à s'entendre sur la prise en charge des demandeurs d'asile, l'Autriche et la Slovaquie viennent de signer un accord bilatéral pour assurer l'accueil de 500 migrants. L'Autriche, dont les structures d'accueil sont débordées, va confier ses réfugiés à la Slovaquie qui prendra à sa charge leurs frais d'hébergement et de nourriture. Les précisions de Blaise Gauquelin à Vienne.
C'est une nouvelle qui sera largement commentée à Bruxelles. On ne sait pas si la Convention de Genève, en effet, ou les traités européens permettent de balader ainsi des familles de réfugiés et par-delà les frontières. En fait, le sujet des demandeurs d'asile est devenu explosif en Autriche, comme dans beaucoup de pays. 70 000 nouveaux migrants sont arrivés de manière illégale en Autriche cette année et les régions mènent un bras de fer avec le gouvernement pour ne pas les accueillir, alors que l'extrême droite est de nouveau en tête dans les sondages et que la population autrichienne est largement hostile à l'ouverture de nouveaux centres d'hébergement d'urgence. Il y a en plus des élections à l'automne. 500 personnes actuellement logées sous des tentes en Autriche vont donc partir en Slovaquie, toute proche. Bratislava n'est qu'à une heure de Vienne. Mais les demandes continueront d'être instruites normalement en Autriche et s'ils reçoivent l'asile, ces migrants pourront s'y installer. On se demande pourquoi la Slovaquie a accepté un tel accord sans contrepartie financière. La réponse est sans doute dans le fait qu'elle refuse toujours les quotas de la Commission. C'est l'une des plus dures à Bruxelles. Ainsi, elle pourra dire qu'elle prend sa part quand la Commission l'accusera d'égoïsme, qu'elle prend sa part en apparence en fait, puisque les migrants ne sont accueillis que provisoirement.
Le Premier ministre turc s'est rendu aujourd'hui dans la ville endeuillée de Suruç, près de la frontière syrienne. C'est là qu'un attentat suicide attribué à l'État islamique a tué 32 personnes. Le gouvernement annonce un renforcement de la sécurité et il promet de faire rapidement toute la lumière sur cette attaque. Mais au-delà des intentions affichées, le pouvoir d'Ankara subit un rude coup avec cet attentat qui le renvoie à ses ambiguïtés vis-à-vis de Daesh, Camille Magnard.
C'était hier soir dans plusieurs villes de Turquie, des petites foules qui se rassemblent et qui scandent « État islamique meurtrier, Erdogan » complices. À chaque fois, la police les a fait taire. Canon à eau à Istanbul, coup de feu tiré à Mersin, où il y a eu 2 blessés. Et ça nous montre bien combien cet attentat de Suruç gêne le président turc, combien il interroge sa dualité vis-à-vis de l'État islamique. Dualité aussi de la population turque qui a longtemps fermé les yeux sur la menace, selon l'islamologue Olivier Hahn de l'université d'Aix-Marseille.
Il est clair que jusqu'à présent, la population turque n'avait pas subi elle-même les affres de Daesh et on peut même dire d'une certaine manière qu'elle profitait économiquement des flux de contrebande. L'attentat, même s'il visait essentiellement une région kurde de Turquie, est quand même un camouflet pour les Turcs et quand même une preuve médiatique qu'ils n'ont pas su gérer l'État islamique comme il fallait. Mais l'État islamique a peut-être envoyé ici, par cet attentat, un signal d'appel, un signal d'alarme pour éviter qu'Erdogan ne s'implique directement contre Daesh.
Et l'attentat d'hier fera donc passer un double message, affirmer le pouvoir de nuisance de Daesh sur le sol turc et rappeler à Ankara qu'un rapprochement est toujours possible contre l'ennemi commun de toujours, les Kurdes. Le chercheur Olivier Hahn, lui, ne se fait pas d'illusions. Tant qu'Ankara verra dans Daesh son meilleur atout pour affaiblir les Kurdes de Turquie, alors la frontière turco-syrienne restera aussi poreuse et l'État islamique continuera à exporter son pétrole de contrebande par la Turquie.
Camille Magnard, l'Observatoire syrien des droits de l'homme dénonce un nouveau drame à Alep. Selon l'ONG, un missile sol-sol des forces du régime syrien a tué au moins 18 civils et fait des dizaines de blessés dans la vieille ville, provoquant également d'énormes dégâts. La participation a été faible au Burundi. 3,8 millions de Burundais étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour l'élection présidentielle. Le chef de l'État, Pierre Nkurunziza, brigue un troisième mandat, mais l'opposition a dénoncé un simulacre d'élection et boycotté le scrutin. Alors, Esras Dikoumana, vous êtes en ce moment à Bujumbura pour RFI, dans un bureau de vote. Comment s'est passée cette journée ?
Je me trouve dans un bureau de vote du centre de Kinama, un quartier du nord de la capitale Bujumbura. Les agents électoraux viennent de terminer le dépouillement des bulletins de vote pour cette présidentielle très contestée. Il s'agit d'un scrutin sans véritable enjeu électoral, puisque le principal opposant, Agathon Rwasa, qui est opposé en troisième mandat du président Nkurunziza, a déjà annoncé qu'il ne reconnaîtra pas les résultats de ces élections. Mais malgré cela, il figure sur les bulletins de vote et ici, dans le quartier de Kinama, il devance le président sortant avec environ 40% des voix exprimées contre 38% pour le président sortant. Cela n'est pas bien sûr à l'échelle nationale, c'est juste dans son quartier d'Okinama. Alors, il est devant malgré un appel au boycott lancé par l'opposition. Et ça s'est ressenti dans les urnes à Kinama. Le taux de participation à la présidentielle est de 40%. C'est l'un des plus élevés dans la capitale. Ailleurs, il tourne autour de 15%. Cette présidentielle, très contestée également, a été organisée dans un climat de violence. La nuit a été ponctuée d'explosions de grenades et de tirs nourris à l'arme automatique et qui ont fait un civil et un policier tués, des violences qui durent depuis 3 mois et qui sont la conséquence de la décision du président burundais de briguer un troisième mandat. Ce soir, la communauté internationale l'a déjà prévenu, les États-Unis et la Belgique qui est l'ancienne puissance coloniale du Burundi, parle d'un scrutin sans aucune crédibilité.
Merci Esdras Dikoumana en direct de Bujumbura au Burundi. Le temps sera orageux demain dans le sud-ouest, le centre-est et le nord-est. Du nord-ouest au bassin parisien, le ciel sera très nuageux le matin, variable l'après-midi. Il fera beau autour de la Méditerranée. Les températures atteindront 22 degrés près de la Manche jusqu'à 35 degrés dans le sud-est.